Livre troisième. La nuit de la louve. Chapitre 21. Prophétie. La mémoire de la terre est étrangère à celle des hommes. On croit tout connaître de l'histoire et du monde, mais il est des âges oubliés où se croisaient encore mille merveilles aujourd'hui disparues. Seuls les arbres se souviennent, et le ciel, et le vent. Et si un soir d'été, l'âme bienveillante, vous vous allongez dans l'herbe et vous les écoutez le cœur ouvert, vous entendrez peut-être cette histoire d'un autre temps, au pays de Gaëlia. Celle de la louve blanche et de l'enfant qu'on appelait Aléa. Hernan, l'archidruide, fut réveillé en sursaut par des battements sourds contre le bois de sa porte. D'ordinaire, jamais aucun serviteur de Saïmina n'aurait osé réveiller ainsi le plus haut membre du conseil. Le soleil était à peine levé. La soirée de la veille avait été longue et difficile. Toutes les soirées l'étaient, depuis la grande défaite. Les débats continuaient tard dans la nuit. Les tensions montaient au sein du conseil. Chacun rejetait la faute sur les autres. Nul ne savait comment réagir, sortir de la crise, relever la tête. Jamais par le passé le conseil n'avait connu pareille défaite. Même le départ jadis des deux renégats n'avait pas eu d'effet aussi désastreux que la guerre qui divisait à présent la Gaëlia tout entière. Les temps étaient certes troubles et confus, mais on ne venait pas réveiller l'archidruide sans une raison plus grave encore. Et pourtant c'était bien la voix d'un serviteur qu'Hernan entendait derrière la porte de ses appartements. Une voix, pleine d'urgence et d'angoisse. Il s'était passé quelque chose de terrible, à n'en pas douter. Le vieil homme se leva et enfila les manches longues de son manteau blanc. Le serviteur tapa encore à la porte. Hernan se regarda dans le grand miroir penché devant lui. Il vit l'image d'un homme usé. Il vit combien dans ses yeux la tristesse avait chassé l'espoir. Pourquoi la Moïra l'avait-elle choisi pour affronter la plus grave crise de l'histoire de Saïmina? Comment pourrait-il être à la hauteur? Il poussa un long soupir. Il devait s'attendre à tout, à n'importe quelle nouvelle. La pire d'entre toutes. Plus rien ne pouvait lui être épargné, car la Moïra avait déclenché un bouleversement sans précédent. Le monde allait changer. Le monde était déjà en train de changer. Quand il ouvrit la porte de sa grande suite, l'archidruide découvrit la peur dans les yeux du serviteur. Une peur profonde qui semblait lui avoir coupé la langue. La seule chose que le pauvre garçon put dire, quand le druide lui demanda ce qui se passait, fut
« C'est en bas !»
Hernan poussa un soupir d'exaspération et, bousculant le serviteur, se dirigea vers les escaliers pour rejoindre la grande cour. Son rang lui interdisait de courir. Il devait rester digne en toute occasion, bien sûr, mais il descendit aussi vite qu'il put, s'appuyant sur le chêne blanc de son haut bâton. Dès qu'il fut en bas des marches, il découvrit l'attroupement silencieux au dehors. Druides, magistels et serviteurs mêlés, serrés les uns contre les autres, immobiles. Tous regardaient dans la même direction. Ils étaient assemblés en cercle au milieu de la cour. Hernan s'épongea le front. Il ne pouvait y avoir qu'une explication à cette agitation. Mais il refusait de l'admettre. Serrant son poing sur la pointe de son bâton, l'archidruide se précipita finalement à travers la foule.
« Poussez-vous !»
Les gens s'écartèrent devant lui. Quand il arriva enfin au milieu de la cour, il fut abasourdi par le spectacle. Il avait imaginé le pire, mais ce qu'il vit le bouleversa bien plus qu'il ne l'avait craint. Le chêne avait été arraché. Le chêne centenaire de la grande cour n'était plus là. Le symbole sacré de Saïmina avait été dérobé. Au milieu des 13 trônes de pierre, ne restait qu'un vide angoissant. Un large trou dans la terre. Une menace. Un affront. Une trahison. Tous les regards se tournèrent vers l'archidruide. Et sur tous les visages, Hernan découvrit la même inquiétude. Dans tous ses yeux, la même attente. La même stupeur. Saïmina venait de perdre son âme. Le vieil homme entendait battre son cœur. Il lui semblait voir se refléter sa propre figure partout autour de lui. Et un regard accusateur.
« Je demande une réunion du conseil sur le champ, »
prononça-t-il d'une voix grave et profonde.
« Que tous les grands druides me rejoignent dans la chambre haute. »«
Ceux qui sont encore là, » murmura Shehan, l'archiviste. Hernan jeta un regard circulaire sur les hommes et les femmes autour de lui. Évidemment, plusieurs grands druides et de nombreux druides manquaient à l'appel. Il en avait sûrement fallu beaucoup pour mener à bien une telle trahison. Il laissa le Saïman flotter dans l'assistance et sut aussitôt lesquels de ses frères les plus proches n'étaient plus là. Enon, Kalan, Otelian et Tiernan. Quatre nouveaux traîtres. Et avec eux, plusieurs druides et magistels, sans aucun doute.
« Oui, » reprit Hernan. « Ceux qui sont encore là. Que l'intendant cherche quels sont les druides et les magistels qui manquent à l'appel. Je veux qu'on me donne tous les noms. Absolument tous. »
Il fit volte-face et partit, furieux, vers la haute tour pour rejoindre la chambre du conseil. Mais avant de franchir le pas de la grande porte, il se retourna, adressa un regard à la foule désemparée et ajouta
« Que rien de tout cela ne soit ébruité hors de Saïmina sans mon autorisation. Et maintenant, que tout le monde retourne prestement à son travail. »
Mais Hernan se doutait que le monde saurait bien assez vite. La nouvelle allait traverser l'île tout entière. Un événement comme celui-là ne pourrait rester secret bien longtemps. La Gaëlia, bientôt, saurait que le conseil était déchiré. Que Saïmina était tombée. La convalescence d'Aléa et d'Erwan dura encore plusieurs jours, jusqu'au début de l'automne, et leur deuil bien davantage. Fingin vint chaque matin soigner l'épaule d'Aléa, usant du Saïman pour réparer la fracture. Les derniers soldats de l'armée du Samildanak, comme ils se désignaient eux-mêmes, s'étaient petit à petit rassemblés autour d'Aléa et de ses compagnons et avaient construit dans ce coin reculé de la forêt un campement aussi confortable que le permettait l'environnement. Tentes, petites cabanes en bois, couches modestes, tables, rangements et au centre de la clairière, un grand feu qui ne s'éteignait jamais. On ne parlait pas beaucoup, on soignait les nombreux blessés et certains soirs, il n'y avait que les chants tristes de la cornemuse pour briser ce silence. Bjoln, les yeux plongés dans la voûte étoilée, jouait près du feu les airs que Feys lui avait appris. Chaque note était un sanglot versé à la mémoire de la barde. Dans tous les cœurs vivait le souvenir de la harpiste et de Galiad, le plus grand de tous les magistels. Dans toutes les âmes, la douleur. Caitlin, quant à elle, essayait d'apaiser ses compagnons par ses douces paroles. La cheminante était une conteuse sans doute aussi douée qu'une barde. On oubliait presque tout dans le méandre de ses histoires, de ses petites pièces. On s'évadait l'instant d'un répit bienvenu. Fingin restait auprès d'elle avec un sourire bienveillant. Et leurs mains, parfois, s'unissaient. En vérité, le jeune druide essayait surtout de masquer son envie de partir. Il ne voulait pas brusquer Aléa ou Erwan, dont il savait que le besoin de repos n'était pas seulement physique. Et pourtant, le monde les appelait. L'histoire ne s'était pas arrêtée. Aussi dure que fut la perte de ces deux êtres si chers, la Gaëlia, au loin, continuait de vivre, et il faudrait bien un jour se remettre sur la route. Partir, au-devant de l'histoire. Les soldats tout autour étaient là pour le prouver. La Gaëlia était prête à se mettre en marche. Erwan fut le premier des deux convalescents à se lever. Après quelques jours, il put enfin marcher normalement, et bientôt, il partit même chasser pour participer à l'intendance de la communauté. On le voyait disparaître quelques heures, seul au cœur de la forêt, puis il revenait au soir, dans les couleurs ocre de l'automne, sa longue chevelure blonde en bataille et du gibier sur l'épaule. Plusieurs soldats qu'il appelait à présent général insistaient pour l'accompagner. Mais le jeune magistel souhaitait rester seul. C'était comme si ce qu'il allait chasser était moins du gibier que la douleur de son deuil. Le souvenir de son père. Galliad Aldaman était sa seule famille. Et la fille qu'il aimait ne pouvait pour l'instant lui porter aucun secours. Caralea, elle, restait silencieuse. Quand elle ne dormait pas, elle était plongée dans le volume lourd et épais de l'encyclopédie d'Anali, qu'elle gardait toujours auprès d'elle. Elle tournait les pages lentement, le livre posé sur ses genoux, apprenant à lire à mesure qu'elle avançait, cherchant longtemps le sens des mots, buttant contre les lettres qu'elle ne reconnaissait pas encore parfaitement. Pourtant, après quelques jours, ce fut comme si elle avait toujours su lire. Les pages se mirent à tourner de plus en plus vite, et le regard de la jeune fille se fit de plus en plus intense, de plus en plus brillant. Cependant, elle ne parlait toujours pas. Pas même à Mjoln, son plus fidèle compagnon. Pas même à Erwan Aldaman, le garçon qu'il aimait. Pas même à Fingin, le jeune druide qu'elle avait appelé à elle. Et pas plus à Caitlin, qu'elle chérissait pourtant comme une sœur. Et à part Mjoln, tout le monde semblait pour l'instant s'accommoder de son silence. Le nain, lui, s'impatientait chaque jour davantage. Il s'asseyait en face d'elle, la regardait lire pendant de longues heures, puis, voyant qu'elle ne parlait toujours pas, sortait bruyamment de la petite cabane en poussant de grands soupirs d'exaspération. Les centaines de soldats qui campaient autour d'elle portaient son blason, mais ne l'avaient jamais entendu parler. Ils s'étaient engagés pour elle, s'étaient battus pour elle, avaient vu mourir pour elle leurs frères à leur côté, mais elle ne restait pour l'instant qu'une ombre distante dans une cabane de bois inaccessible. Et cela, sans doute, contribuait à la légende qui était en train de se construire autour de la jeune fille. Aléa n'était pas encore sortie, et la plupart des soldats n'avaient jamais vu ne serait-ce que son visage. On ne parlait pourtant que d'elle. Elle était belle, elle était grande, elle était forte, elle était tous ses espoirs réunis dans les rumeurs d'une armée qui se vouait à elle. Mais derrière le voile rouge qui fermait la cabane où se terrait la jeune fille, ses compagnons, eux, n'écoutaient que son silence. Un soir, cependant, alors que tous mangeaient sur la petite table qu'avait confectionnée le nain dès le début de leur séjour, Aléa, toujours en retrait, allongée sur son lit, prit enfin la parole. « Fingin, il faut que nous parlions, toi et moi, » dit-elle sans regarder ses compagnons, comme si aucun silence ne les avait séparés d'elle depuis de trop longues journées. Ils se lancèrent tous un regard stupéfait, puis tournèrent lentement les yeux vers elle. « Je t'écoute, » répliqua le jeune druide en posant sur la table sa cuillère de bois. « Non, pas ici, » dit Aléa en se levant lentement. « Allons marcher dans la forêt. »«
Tu as peur qu'on vous entende ?»
s'exclama Mjoln, furieux.
« Sadon, tu as des choses à nous cacher ?»
Caitlin fronça les sourcils pour faire signe au nain de se calmer. Mais Aléa sourit. Elle avait presque oublié le caractère de Monsieur Abak. « Non, Mjoln. J'ai simplement besoin de marcher et de réfléchir. Fingin peut m'y aider. Mais si tu veux venir, tu es le bienvenu. Je n'ai rien à cacher, surtout pas à mon plus vieil ami. »«
Tant mieux !»
répliqua le nain en grimaçant.
« Eh oui, je veux venir. Ahem. Moi aussi j'ai besoin de marcher et de réfléchir. Par la Moira, ça oui, je suis ton plus vieil ami. »
Allons-y, l'invita Aléa comme elle se dirigeait péniblement vers la sortie de la cabane. Elle attrapa au passage le bâton de Félim et sa grande cape blanche qu'elle jeta sur ses épaules. Ses compagnons la regardèrent marcher avec stupéfaction. On aurait dit qu'elle avait grandi, gagné quelques années pendant sa convalescence. Haute, droite, sûre et belle, ce n'était plus une enfant, mais une jeune fille décidée. Mjoln sauta du banc et se précipita derrière elle. Fingin les suivit bientôt, lançant un regard désolé à Caitlin et Erwan. Mais ces deux-là étaient déjà ravis de voir qu'Aléa s'était remise à parler. La chose, pour l'instant, suffisait à les rassurer. Imala avait fui pendant de longues heures. Fui le spectacle et l'odeur des cadavres. Avec les siens, elle avait battu les créatures. Elle avait protégé la verticale. Mais à présent, elle voulait être loin. Les autres loups, comme elle, s'étaient enfuis, éparpillés à travers le pays. Comme si soudain la force qui les avait unis avait disparu, et la nature reprit ses droits. L'émeute s'était formée de nouveau, et de nouveau, elles avaient cherché leur territoire, s'éloignant les unes des autres. Imala, comme jadis, avançait seule à présent sur la terre de l'île. L'image des verticaux était déjà loin derrière elle. Il ne restait que la douleur à sa patte blessée et le souffle du vent qui agitait son pelage. Descendant vers le sud, elle traversait la lande, les forêts, contournait les villages, chassait en louve solitaire. Ce jour-là, elle arriva au bord d'un étang dans la fin de l'après-midi, à ce moment où le jour, en partant, laisse un doux voile bleu dans la lumière qui s'éteint. Lentement, la louve se faufila entre les hautes herbes jaunes. La forêt commençait déjà sa longue mutation. Les feuillages et les herbes se coloraient de cuivre et de roux. Les oreilles dressées, la gueule au ras du sol, elle avança vers l'eau avec une délicatesse agile. Ses larges pattes s'enfonçaient dans la terre humide et froide. Bientôt, son reflet blanc et gris apparut à la surface de l'étang, double parfait de son corps aminci par la fin de l'été. Elle s'arrêta un instant, écoutant le clapotis léger de l'eau, secoua la tête pour chasser quelques insectes et se pencha enfin sur l'étang pour y tremper son museau et boire longuement. C'était une eau douce et fraîche, qui étancha sa soif mais réveilla sa faim. Soudain, elle s'arrêta de boire et redressa la gueule. Elle avait vu un mouvement dans l'eau. Une petite forme ovale qui était passée, tremblante, au fond de l'étang. Un poisson. Immobile, elle scrutait à présent sous la surface. Elle le vit de nouveau. Puis un autre, un soubresaut. Elle eut un geste de recul, puis soudain, plongea la gueule sous l'eau. Le museau dégoulinant, elle sortit de l'étang une grosse carpe au corps écailleux. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffirait pour l'instant. Imala se mit à trotter le long de l'étang et partit se coucher à côté d'un grand aulne qui s'était bien accommodé des lieux en se dressant au-dessus de l'eau sur ses racines échasses. La louve dégusta le poisson en quelques bouchées, puis avança de nouveau vers l'étang pour boire encore un peu et se laver le museau. Le sang avait presque entièrement disparu sur les poils blancs de sa patte blessée, mais elle boitait encore. Elle partit se coucher dans un humus noirâtre de feuilles mortes, de graviers et de brindilles de saule. Elle s'assoupit enfin à l'approche du soir, dans le champ apaisant d'une forêt éparse. Mais à peine s'était-elle endormie qu'elle fut réveillée en sursaut par le craquement d'une branche. Imala se dressa d'un bond et fit volte-face. Elle scruta les alentours, oreilles tendues, queue droite. Bientôt elle vit ce qui l'avait réveillée. À quelques pas à peine, à l'ombre d'un vieil aulne, dressé sur ses pattes avant, le loup gris les pieds. Immobile. C'était un loup de grande taille, la tête large, pattes longues et corps robuste. Ses yeux jaunes effilés étaient entourés d'un épais trait noir qui tranchait avec le gris clair de son pelage et lui donnait un regard perçant. La langue pendante, les oreilles dressées, il remuait la queue, recourbée vers le haut, mais semblait attendre qu'Imala fasse le premier pas. La louve resta immobile. Elle connaissait vaguement la silhouette du loup, mais le temps avait passé. Le lien pour l'instant n'existait plus. Il était redevenu un étranger. Soudain, le mâle se mit à aboyer, puis son aboiement se transforma en hurlement aigu. Quand la dernière note s'éteignit, le mâle avait les oreilles tendues, comme s'il cherchait un écho, une réponse, le hurlement d'un autre. Mais il vit qu'Imala était seule. Aucun autre loup n'était avec elle. La voie était libre. L'odeur familière du grand loup gris arriva bientôt jusqu'à Imala. Elle se souvint alors sans peine de son congénère. Elle hésita un instant, puis lentement, elle avança vers le nouveau venu. Méfiante, ne le quittant pas des yeux, elle se rapprochait de lui, prête à bondir. Quand elle ne fut plus qu'à quelques pas, elle se mit à gémir, fit quelques petits sauts en arrière comme pour inviter le loup à avancer. Mais il attendit, fier et droit sur ses longues pattes grises. Imala fit un tour sur elle-même, puis avança de nouveau. Elle obliqua doucement vers la gauche pour contourner le mâle, mais celui-ci eut un mouvement brusque, changeant l'inclinaison de son corps comme pour empêcher Imala de l'approcher par le flanc. La louve blanche gémit de nouveau, poussa quelques glapissements curieux, mais continua d'avancer. Enfin, elle arriva timidement près du loup. Lentement, elle vint se poster, la queue haute, le long de son flanc. En quinconce, côte à côte en sens inverse, ils ne se regardaient pas, mais chacun leur tour faisait de petits sursauts vifs. Ils ne se touchaient pas encore, mais s'habituaient l'un à l'autre, se testaient. Petit à petit, leurs queues se mirent à remuer plus fortement, et soudain, le loup posa une patte sur l'épaule d'Imala. Elle s'immobilisa, mais ne courba pas l'échine, ni ne montra la moindre soumission. Ils restèrent ainsi quelques instants, mélangeant leurs odeurs. Puis enfin, ils se mirent à jouer. Se chassant l'un l'autre à travers les arbres, se mordillant, gémissant, ils retrouvèrent très vite leur intimité avant de partir s'étendre tous deux à quelques pas de l'étang, épuisés, mais rassurés. Unis de nouveau. Ainsi, la légende raconte comment Imala retrouva, au début de l'automne, le grand loup gris, celui que les conteurs appelèrent Taïbron, ce qui, dans la langue des Sylves, signifie « compagnon ».
Avec les deux renégats en moins, Fingin auprès de la fille et les quatre traîtres disparus, jamais le conseil n'a été aussi divisé, Hernan.
La voix d'Aengus était emplie d'inquiétude. Les autres grands druides, qui partageaient son désarroi, acquiescèrent. Hormis Shehan, l'archiviste, qui se contentait de prendre des notes sur son grand cahier, lui qui était le seul de sa caste autorisé à écrire. Hernan, la mine grave, écoutait ses frères sans vraiment les entendre. Le vieil homme avait l'esprit ailleurs. Les grands druides ne pouvaient rien lui apporter dans une heure si grave. Il avait besoin de trouver la réponse en lui-même.
Félim, Aileen, vous m'avez abandonné. Vous êtes parti avant même que le sort de notre île ne soit joué. Jamais je n'ai eu votre clairvoyance. Jamais je n'aurai votre courage, votre audace. Jamais je ne pourrai rétablir l'ordre dans ce conseil, la paix sur notre île. Nous sommes allés trop loin. À force de calculs, de manipulations, à force de stratagèmes, nous avons perdu le sens si simple des réalités.
Nous ne sommes plus que six, reprit un autre grand druide. Pas même la moitié de ce que nous devrions être.
Ils ont coupé le chêne. Ils sont entrés cette nuit et ils ont coupé le chêne. Je ne sais même pas ce que je fais ici. De quel droit est-ce que je préside encore cette assemblée, alors que tout s'est écroulé autour de moi sans que je ne voie rien venir?
On raconte toutefois que Samael est mort, intervint Shehan en relevant la tête. Qu'il se cachait sous les traits de l'évêque natalien. Si vraiment il est mort, alors nous pourrions nommer au moins un nouveau grand druide à sa place, et ainsi nous serions sept. Et puis il ne faut pas oublier que même s'il n'est pas ici avec nous, Fingin n'est pas pour autant notre ennemi. Je garde une confiance absolue en notre plus jeune frère.
Nous ne pouvons plus avoir confiance en quiconque, répliqua Aengus. Il est si jeune, les traîtres n'auraient aucune peine à le manipuler. D'ailleurs, nous n'aurions jamais dû nommer grand druide un frère de son âge. Il était encore apprenti il y a quelques mois à peine.
Fingin est plus sage que la plupart d'entre nous, intervint Kieran avec son air toujours mystérieux. Et il ne nous trahira jamais.
Nous serions donc huit, conclut Shehan.
Aengus soupira.
Quand bien même, huit au lieu de 13, nous n'avons plus aucune chance d'être pris au sérieux.
Pris au sérieux par qui? Intervint Kieran, ironique. De toute façon, nous n'avons plus un seul allié politique. Depuis la mort du haut roi, la galaxie n'est plus à nos côtés. Et je suis prête à parier que les quatre traîtres ont rejoint la reine.
Si nous avions fait davantage confiance au roi, si nous lui avions donné plus de pouvoir, cette femme n'aurait sans doute pas pu le tromper ainsi. Les calculs de nos aînés étaient donc erronés. Nous aurions dû laisser plus de place à Eogan. Au moins en apparence.
On dit en effet que les traîtres seraient déjà auprès d'elle, confirma Shehan.
Alors nous pourrions tout simplement les bannir et nommer 4 druides à leur place,
proposa Aengus.
Ainsi, seul le trône de Maol Morda resterait vide. Nous serions 12, unis de nouveau.
Tous les visages se tournaient vers Hernan pour y trouver une réponse. L'archidruide était resté silencieux. À vrai dire, ce qui le préoccupait pour le moment n'était pas le nombre de grands druides siégeant au conseil, mais ce que le conseil devait faire, qu'ils fussent 6, 8 ou 12. Les druides, comme l'avait justement fait remarquer Kiaran, n'avaient plus d'alliés véritables. Eux qui avaient jadis été la plus grande force politique de l'île. Eux qui, derrière le haut roi, avaient si longtemps tenu les ficelles secrètes d'un pouvoir certes fragile, mais encore stable, se retrouvaient aujourd'hui seuls et déchirés au milieu d'un paysage politique éclaté. Et nul n'aurait pu prévoir cela. Hernan se sentait seul. Même ici, assis sur le fauteuil sculpté réservé à son rang, sous la voûte chaleureuse de la chambre du conseil, l'archidruide avait l'impression que son ordre n'existait déjà plus. Trop de frères manquaient, et la trahison qui venait d'être commise apportait trop de doutes. Sur qui pouvait-il compter à présent? Et puis il y avait le chêne. Comment les traîtres avaient-ils pu arracher ainsi l'arbre centenaire? Quel affront plus violent et plus humiliant pouvait-on imaginer à l'égard de la grande Saïmina? Comment la Moïra avait-elle pu laisser faire cela?
Mes frères, nous ne pourrons reconstruire le conseil, nous ne pourrons reconstruire Saïmina sans l'arbre centenaire. Il était le symbole de notre union. Remplacer les traîtres alors qu'ils ont emporté l'âme de notre ordre, ce serait nous mentir à nous-mêmes.
Que voulez-vous dire? S'étonna Aengus.
Saïmina sera réunifiée, ou elle ne sera plus. Il ne s'agit pas de remplacer nos frères, il s'agit de les faire revenir, ou de disparaître.
Un long silence s'apesantit sur la petite assemblée. Les 5 grands druides qui entouraient Hernan le dévisageaient, attendant sans doute qu'il s'explique. Mais Hernan était déjà perdu dans d'autres pensées. Finalement, ce fut Kiaran qui rompit le silence.
Ce que dit Hernan me paraît fort juste. Le conseil n'a plus de raison d'être quand tant de ses membres ont décidé de le quitter. Ce n'est pas notre survie qui est en cause. C'est notre essence.
Kiaran pense comme moi. Il sait que cette crise va au-delà de notre ordre, qu'elle est notamment une remise en question de notre raison d'être. Et que tant qu'elle ne sera pas résolue, notre reconstruction sera vaine.
Mais l'île a besoin du conseil. On ne peut pas détruire notre ordre comme ça, parce que 4 de nos frères nous ont trahis.
On ne peut pas le détruire, en effet, répliqua Kiaran. Mais on ne peut pas non plus le réparer. Rien ne sert de remplacer dans la précipitation les briques qui sont tombées du mur. Si ce mur s'effrite, ce sont les raisons de son écroulement que l'on doit affronter. Cela fait longtemps que ce conseil fait fausse route. Félim avait raison. En refusant d'assumer notre rôle, nous courions à notre perte.
Jamais les paroles de Kiaran ne m'ont paru aussi sensées. Sans doute n'ai-je pas su le comprendre. Ce qu'il disait jadis et que je prenais pour des illuminations incohérentes était peut-être raison pure, trop pure même pour que nous la comprenions avec notre logique pervertie par trop d'années de pouvoir.
Nous aurions dû soutenir la petite peste,
s'indigna Aengus en se levant.
Nous aurions dû soutenir le Samil Danak, rectifia Kiaran.
Il n'est jamais trop tard, fit remarquer Hernan sans lever les yeux.
De nouveau le silence se fit. Aengus, toujours debout, lança des regards désespérés à ceux de ses frères qui étaient restés muets, Lorcan et Odran. Dans leurs yeux, il vit que cela était résigné, ou tout simplement dépassé.
Seriez-vous en train de me dire que nous devrions rejoindre Aléa?
Demanda Aengus, dont les yeux étaient à présent pleins de fureur. Mais personne ne répondit. Aengus se laissa retomber sur son haut fauteuil en secouant la tête. Et à son tour, il choisit de se taire.
« Mes frères, » conclut Hernan en posant son bâton de chêne sur ses genoux. « Je ne vous ai pas encore tout dit. Les quatre traîtres ne se sont pas contentés de notre arbre centenaire. Ils ont emmené avec eux les quatre manites des Tuatan et le manite de Jar. Seuls, nous ne tiendrons pas contre eux. Nous sommes plus nombreux, certes, mais ils ont la puissance de ces objets sacrés avec eux, et l'armée de la reine est sans doute déjà à leur côté. Nous n'avons d'autre choix que de chercher un nouvel allié. La reine a voulu notre chute, elle y est déjà parvenue. La cour, ce sont nos ennemis les plus féroces. La Bisagne, ils refuseront de choisir un camp. Les Tuatan, ils sont pratiquement tous morts à l'heure qu'il est. Notre seul allié possible est Aléa. Fingin est avec elle, et avant lui, Félim avait fait confiance à cette jeune fille. Je ne vois pas d'autre choix.
Et Aileen, je le sais, aurait pris la même décision. Tous ses choix, d'ailleurs, bien que nous ne les ayons point compris à l'époque, allaient dans ce sens. Protéger Aléa pour l'aider à accomplir son destin. Le nôtre.
Nous ne savons pas où elle est, signala Shehan. Nous ne savons même pas si elle a survécu. On raconte que Maol Morda a envoyé contre elle une créature revenue du pays des morts.
Elle est en vie, intervint Kiaran. La certitude dans sa voix disait que sans doute, il l'avait vue dans le monde de Jar. Nul ici n'ignorait plus que Kiaran, le plus étrange des membres du Conseil, voyageait chaque nuit dans ce monde étonnant où flottaient les âmes des vivants. Hernan acquiesça.
« Si elle est en vie, » affirma l'archidruide en se levant, « nous la trouverons. Bientôt. »
Fingin, quand je me suis réveillée l'autre jour et que je t'ai demandé s'il y avait des réponses dans l'encyclopédie d'Anali, tu m'as répondu qu'il y en avait.
Aléa marchait à travers la forêt à côté du jeune druide, suivi de près par Mjoln, qui ne voulait pas manquer une miette de la conversation. Sa petite taille le contraignait à faire des pas plus rapides que ses deux compagnons, et il soupirait d'un air exaspéré, enjambant les grandes branches mortes qui jonchaient le sol, sautant par-dessus les flaques.
« Cela signifie-t-il, » reprit Aléa, « que tu as lu l'encyclopédie ?»
Fingin regardait droit devant lui. Il savait à présent combien chaque mot comptait pour Aléa, combien ses questions étaient lourdes de sens. Elle n'avait jamais vraiment étudié à Saïmina, mais elle était aussi affûtée qu'un druide. Et sans doute plus. J'ai lu les premiers chapitres. Aléa sourit. La précaution du druide l'amusait.
Alors tu sais quelle est la première prophétie?
Oui, avoua Fingin en caressant d'une main son crâne chauve.
Et tu penses qu'elle me concerne?
Fingin s'arrêta de marcher. Il regarda la jeune fille. Elle était vraiment belle. Maintenant, il le voyait. L'amour qu'Erwan, son propre magistèle, avait pour cette fille, n'avait rien de surprenant, même dans sa force. Tout le monde devait tomber un peu amoureux d'elle. Tous ceux qui la rencontraient, en tout cas. Le jeune druide lui-même, quoique son cœur eût choisi Caitlin, n'était pas tout à fait insensible au charisme puissant d'Aléa. Ses yeux bleus, sa chevelure sombre, les vêtements nobles, bleus et or, que les Sylves avaient confectionnés pour elle. La grande cape blanche sur ses épaules qui rappelait les habits de sa propre caste. Et le bâton de Félim, qui la grandissait et assurait son pas. Aléa s'arrêta à son tour, souriante. Elle attendait. « Oui, je pense qu'elle te concerne, » répondit finalement le jeune druide.
« Mais... « Par la Moïra, allez-vous me dire de quoi il s'agit, oui ? Oh, ça c'est cruel, ça oui. Je ne l'ai pas lu, moi, votre livre. »
Mjoln, qui venait de les rattraper, était essoufflé. Les poings serrés sur les hanches, les sourcils froncés, il avait l'air furieux. Aléa prit sa main et s'assit près de lui, sur un tronc mort. « La première prophétie fait référence à ma naissance, Mjoln. »
« À ta naissance ?» « Tu nous as dit l'autre jour que ta mère était une dame du Cid. Ça, oui. Et que tu avais un frère. Hein, toi, Tan.
C'est exact, confirma Aléa. Et l'encyclopédie d'Anali, qui a été écrite longtemps avant ma naissance, raconte comment se terminera l'âge du Samil Danak.
L'âge du Samil Danak? C'est quoi ça?
S'étonna le nain. L'âge que nous sommes en train de vivre, celui qu'ont vécu nos parents, celui que tu as vécu.
Et alors?
Insista Mjoln. Alors, l'encyclopédie d'Anali raconte que le dernier Samil Danak sera une femme. Qu'elle sera la fille de la terre, née d'une femme du dessous et d'un homme du dessus.
Un homme et une Touatane?
Exactement. La prophétie dit qu'un soir la porte du Cid s'ouvrira, qu'une femme Touatane en sortira et que son corps s'unira à celui d'un homme pur, habitant de la Gaëlia. De cette union naîtra une fille, le dernier Samil Danak. Mon frère, Tagor, m'a raconté que ma mère m'avait tué ainsi, et qu'elle avait dû fuir le Cid à cause de sa trahison.
Et donc, ma petite lanceuse de cailloux, tu penses que le dernier Samil Danak, c'est toi?
Aléa ne répondit pas. Elle se contenta de sourire et de se tourner de nouveau vers Fingin. Parliez-vous de cela au conseil? Demanda-t-elle en se levant et en s'approchant du druide. Non. Le nom de l'encyclopédie a été mentionné une ou deux fois, mais ce livre ne semblait pas être bien vu de mes frères. Aucun livre, d'ailleurs, je te le rappelle. Mais parlait-on de ma naissance? Non. Alors tu ne sais pas qui est mon père? Le druide sourit à son tour. Il se demandait si Aléa se moquait de lui, ou si c'était une ruse. Tout le monde ne l'a-t-il pas deviné depuis longtemps? Demanda-t-il d'un ton ironique.
Non, pas moi!
S'exclama Mjoln. Mais Aléa fit comme si elle n'avait pas entendu. Crois-tu que lui-même savait qu'il était mon père? Demanda-t-elle au druide. Fingin haussa les épaules.
Mais de qui parlez-vous, bon sang?
Aléa dévisagea Fingin encore un instant. Puis elle se tourna de nouveau vers le cornemuseur. Nous parlons de Caron Casfad, fils de Catu Batuos, que les druides rebaptisèrent Félim quand il fut initié à Saïmina. Félim était mon père, Mjoln. Le nain écarquilla les yeux.
Hein? Mais c'est pas possible! Ça non!
Aléa se remit en marche, accompagnée de Fingin. Le nain resta un long moment immobile, bouche bée, puis se mit à courir pour les rattraper. Ainsi, la première prophétie a déjà été accomplie, reprit Aléa. Je suis bien née d'un père humain et d'une mère Touatane, et je semble être ce que vous appelez le Samil Danak. As-tu lu plus loin? Non, répondit le jeune druide. Et Aléa sut qu'il disait vrai. Il reste deux prophéties. Tu les as lues? Demanda Fingin, curieux. Oui, mais ce n'est pas ce qu'elles contiennent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi de ces prophéties. Ce à quoi elles servent, comment elles ont pu être écrites. Et surtout, ce que je dois en faire.
Ont-elles été réalisées? Demanda le druide.
Pas vraiment. Pas encore. Mais devrais-je faire en sorte qu'elles le soient? Ou bien dois-je suivre mon instinct?
Peut-être cela n'est-il pas contradictoire? Peut-être se réaliseront-elles à mesure que tu avanceras sur la route que tu as choisie, suggéra Fingin. Aléa acquiesça. C'était bien sûr ce qu'elle pensait, elle aussi. Mais il y avait quelque chose de terrifiant dans l'idée de n'être que le pion d'une prophétie déjà écrite depuis si longtemps. N'avait-elle pas le choix? Était-ce donc cela, la Moïra? Un destin tout tracé auquel on ne pouvait échapper? Elle regarda Fingin. Il ne lui avait pas demandé ce que disaient les deux dernières prophéties. Et pourtant, il mourait d'envie de savoir, elle s'en doutait. Mais il était respectueux, et il attendrait. « Où se trouve ma liberté, dans la vie que je mène ?» demanda-t-elle en regardant le jeune druide droit dans les yeux. « Être libre, parfois, c'est accepter de ne pas échapper à ses devoirs. »«
Qu'est-ce que tu racontes ?»
s'exclama Mjoln qui ne comprenait plus du tout le sens de leur conversation.
Vous parlez comme des étudiants du Mont-Tombe.
Que se passerait-il si tu arrêtais de respirer? Demanda Fingin en s'adressant à Mjoln. Le nain fronça les sourcils.
Je m'étoufferais et je mourrais. Quelle question!
Exactement. Respirer est donc une obligation, pour quiconque veut vivre, n'est-ce pas?
Bien sûr,
répondit Mjoln. Vivre, c'est donc accepter certaines obligations. Il en va de même pour la liberté.
Oh,
murmura le nain en grimaçant. Dans notre cas, nous avons quelques obligations un peu plus complexes que le simple fait de respirer. Nous pouvons les refuser, mais nous pouvons aussi les accepter. Et je crois que pour nous libérer, nous devons les accepter. Accepter le fait qu'elles sont nécessaires avant d'être obligatoires. Le nain secoua la tête, toujours aussi perdu. Aléa se rapprocha du druide. « Et quelles sont ses obligations d'après toi ? » demanda-t-elle.
« Cela dépend de ce que disent les prophéties. »«
Avons-nous besoin d'elle pour savoir ce qui est nécessaire ?»
Le druide ne sut que répondre. Aléa sourit. « Je crois justement que l'une des prophéties, » conclut-elle, « consiste à répondre à cette question. » Le nain leva les bras au ciel, dans un signe d'incompréhension totale. Mais cette fois-ci, personne ne se décida à lui expliquer. Fingin lui-même n'était pas sûr de comprendre. Imala et Taïbron marchèrent encore plusieurs jours avant de trouver dans la vallée de Loma un asile confortable et giboyeux. Plongeant au sud vers le Sinaïn et protégée au nord par la forêt de Brocélia, c'était une vallée tranquille, loin des villes et des verticaux. Dès le premier jour, retrouvant les instincts d'une petite meute, ils parvinrent à chasser ensemble et débusquèrent un mouton égaré sur les collines de Loma. Ils purent se repaître à quelques pas de la rivière. L'herbe était encore verte dans cette région fertile et formait un tapis soyeux où les deux loups s'assoupirent aisément. Au début de l'après-midi, après avoir longuement digéré sous le soleil d'automne, Imala et Taïbron se mirent à explorer leur nouveau territoire, marquant d'urine la frontière de ce qui allait être leur terrain de chasse et de vie, se frottant contre les branches ou le sol pour y laisser déjà leur odeur, mise en garde adressée aux loups de passage. Ils parcoururent pendant plusieurs heures la vallée, découvrant son gibier, ses points d'eau, ses collines. Puis soudain, ils entendirent le hurlement d'un autre loup. Imala se dressa sur ses pattes avant et chercha d'où venait cet appel. Elle était en train de renifler l'air quand elle vit Taïbron partir vers le nord, la queue haute. Elle courut derrière lui, le suivant en ligne droite, et bientôt ils arrivèrent en vue de l'intrus. Assis en haut d'un rocher, c'était un jeune mâle solitaire, au pelage brun, moucheté de gris et de noir, et l'un de ses yeux était crevé, signe sans doute qu'il avait dû quitter sa meute après de violents combats. Taïbron n'hésita pas un instant. Il galopa vers le jeune loup pour le chasser. Celui-ci attendit le dernier moment pour s'enfuir. Il courait vite et parvint sans peine à distancer le loup gris. Taïbron revint entre-temps vers Imala qui était restée en retrait, mais quand il fut auprès d'elle, il vit que le jeune loup brun était de nouveau assis sur le rocher. Cette fois-ci, ce fut Imala qui entreprit de lui courir après. Et encore une fois, le loup borgne attendit jusqu'au dernier instant avant de s'échapper. Dès qu'Imala ralentissait, il modérait son allure à son tour. Et dès qu'elle accélérait, il faisait de même. Après une longue course vers le haut de la vallée, Imala abandonna et revint vers Taïbron qui s'était un peu approché. Le jeune loup brun, visiblement têtu, revint lui aussi. Ce petit jeu dura encore un long moment, jusqu'à ce que le couple cesse de se montrer agressif envers le nouveau venu. Il était parvenu à faire la preuve de sa vélocité et de son opiniâtreté. C'était donc un congénère digne d'intérêt. Petit à petit, ils le laissèrent s'approcher. Le jeune loup brun fit alors la démonstration de sa soumission. Croc caché, la queue repliée entre les pattes, le corps aplati contre le sol, les membres légèrement pliés, il rampa jusqu'à eux, puis se laissa glisser sur le flanc à côté de Taïbron. Le grand loup gris montra à son tour sa domination en avançant au-dessus de lui, en le mordillant deux ou trois fois, sans méchanceté, mais avec suffisamment de fermeté. Le loup brun se mit à le lécher, poussant de petits gémissements amicaux. Puis quand Aibron fit demi-tour pour redescendre dans la vallée, suivi de près par Imala, le jeune loup galopa derrière eux. Il était adopté. Ce fut le premier loup à rejoindre la meute, et la légende lui donna le nom de Tamaran, le loup borgne. Après lui, quatre autres jeunes loups rejoignirent le clan d'Imala. Deux mâles et deux femelles. Très vite, ils furent dont sept, et cela, sans doute, leur parut suffisant car ils ne laissèrent plus d'autres loups approcher les limites de leur territoire, dans la vallée de l'Oma.
Je saurai, moi, ne pas vous décevoir, maître. Laissez-moi la chercher et je vous ramènerai sa bague et son corps sans vie.
Non, cette fois-ci, c'est elle qui viendra à nous.
Maol Morda se tenait debout sur le rempart de la plus haute tour du palais de Shanka. Il tournait le dos à Ultan, le chevalier aux cheveux blancs, celui qui avait été un jour son magistel. La tête levée vers l'obscurité du ciel nocturne, il semblait humer l'air, chercher sur les cordes du vent la trace de sa dernière proie. Sa cape noire était secouée par les caprices de cette brise d'automne, révélant chaque fois qu'elle se soulevait son armure sombre, et par moments, même, la chair vive de son visage monstrueux. Il ne bougeait pas, comme porté au-dessus du vide par mille démons invisibles, silhouette dressée, défiant la profondeur du crépuscule et de l'île endormie.
Aïn Sultor, Dermot Kal, Aimé Gorgoun, tous ont échoué. Aucun n'a su la soumettre. Moi seul, je le sais maintenant, pourrai l'affronter. Et elle viendra à moi, car elle n'a pas d'autre choix. Non, tu me seras plus utile ici quand elle arrivera que si tu partais demain te briser contre elle, comme une vague sur un rocher.
Ultan acquiesça, courbant l'échine.
Combien de temps faudra-t-il attendre ? Combien de forces aura-t-elle réuni, maître, quand elle viendra à nous ?
Celui qu'on appelait le porteur de la flamme des ténèbres se retourna d'un coup et s'avança vers Ultan. Le guerrier baissa les yeux devant l'ombre imposante de son maître. Maol Morda posa une main sur sa tête comme on le fait pour apaiser un enfant. Mais il n'y avait nul apaisement dans ses gestes. Un flot de haine à la place.
Nous ne la laisserons pas se reconstruire. Elle a déjà perdu beaucoup. Nombreux sont ceux qui auraient pu la soutenir et qui aujourd'hui ont rejoint le royaume des morts, d'où moi seul pourrais les sortir. Aod, tué d'une flèche par cet idiot de Samael. Félim, tué par mes Érylim. Sarkhan, le chef des clans. Galiad, Feys. J'ai déjà divisé ses rangs, Ultan. Et nous allons continuer, mais par la ruse cette fois. Alors comme eux, elle périra. Je pourrai finir d'unir Saïman et Ahriman en mon seul sein. Tout n'est qu'une question de temps.
Que puis-je faire pour que nous y parvenions ?
Demanda Ultan sans oser relever la tête. Le renégat retourna lentement vers le rempart. Il resta immobile un instant, alors qu'au loin le bruit de la mer répondait à son silence. Le palais de Shanka était presque vide à présent. Les Gorgounes étaient morts, et les Érylim, longtemps avant eux. Il ne restait que quelques esclaves, quelques veilleurs, et aucune armée. Mais pour Maol Morda, cela n'avait plus aucune importance à présent. Car il faudrait un tête-à-tête. Il n'y avait plus d'autre issue. Lui et elle. Ici même. Le renégat poussa un grognement, puis il dit simplement.
Il y a dans ce palais un ancien veilleur de la Sar qu'on appelle Almar Cain. Va le chercher.